La première.
Podcast.
Bonjour, Jacques-Olivier au micro pour la suite des mémos gallo-romains. Nous allons continuer d'explorer en compagnie de Raymond Brulé, spécialiste d'archéologie gallo-romaine et enseignant à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, ce que nous apprennent de très nombreuses années de fouilles en quantité d'endroits du territoire de la Wallonie sur la présence romaine dans notre région. Avec bien sûr en arrière-plan la question de savoir en quoi cette présence romaine a modifié le paysage, les usages, les gens, comment au fond une culture différente s'est-elle imposée, superposée, mêlée à celle des habitants des contrées conquises, ou bien l'échange et le contact des deux a-t-il pu promouvoir quelque chose de neuf et de singulier ? Nous avons vu déjà comment Rome avait modifié, structuré l'espace en fonction de ses grandes voies de communication, auxquelles vont s'adjoindre d'ailleurs des divisions administratives qui, encore une fois, tiendront compte des réalités du terrain, mais autour de ces routes, l'urbanisme et l'architecture d'abord vont changer.
Alors pour nous résumer, donc, déjà au 1er siècle, on a les deux grands axes qu'on doit essentiellement à Agrippa, hein, un qui va vers la mer, l'autre qui va vers la Germanie. Sous Claude, c'est Reims-Trèves, c'est Reims-Cologne. Sous Néron, on a Metz-Tongres. Donc on voit quand même le quadrillage, je dirais, s'installer. Et les agglomérations, je dirais, qui vont avec. Et là, bon, vous distinguez beaucoup de types dans ces agglomérations. Hein. Là, on travaille sur ce qui était déjà là, mais souvent, on crée de toutes pièces.
Étant donné que l'on va ramifier, bien sûr, ces routes romaines, et on va les densifier, on va en créer de nouvelles. Alors, elles ne sont pas toutes exactement à la date qu'on pense, sous le règne de Claude, sous le règne de Néron. Ce sont des subtilités de l'archéologie qui peuvent faire changer, qui peuvent faire basculer la date d'un jour à l'autre, selon les découvertes archéologiques. Mais en ce qui concerne les principes, on voit que, évidemment, ce réseau routier est appelé à grandir, à se développer et à ne pas être le même au IIe siècle par rapport au moment de sa création. Un autre objectif, évidemment, c'est de rentabiliser le réseau routier de différentes façons et surtout en créant des agglomérations. Il faut savoir que les agglomérations routières, qui ont d'abord comme première fonction de pouvoir donner un coup de main au rythme de la poste, au rythme des échanges, au rythme du commerce, d'être aussi des liens, parce que ça traverse la campagne, donc c'est le lien également ville-campagne, c'est ça le réseau routier. Mais à la longue, on voit que une des possibilités de rentabiliser économiquement le territoire, c'est aussi de créer beaucoup de petits artisanats. Et on voit que l'artisanat ne va se développer pour l'essentiel que au contact des agglomérations. C'est pas tellement dans le monde rural ou dans les fermes que nous aurons de l'artisanat, c'est surtout soit dans les villes, et nous avons vu qu'il y en avait très peu, soit dans les agglomérations. On va développer des tas de petits métiers. Et donc les agglomérations, avec le temps qui passe, avec la fin du 1er siècle, avec le début du 2e siècle, vont voir, en plus d'être des points de service, des points d'auberge, des points de chute pour le déplacement, ça va devenir aussi des centres, non pas industriels, mais des centres artisanaux.
Ce qui est quand même encore frappant dans cette affaire, c'est que ce sont les villages ruraux qu'on connaît quand même le plus mal encore. Hein. Je dirais que c'est déjà valable à l'époque gauloise, hein, pour le dire comme ça. Ça reste relativement vrai encore dans ces débuts de l'occupation romaine.
Ce qui suppose l'existence de villages à la campagne, de villages ruraux, ce sont des espèces de vie en collectivité.
Or, c'est pas à proprement parler des villages. Hein. Je crois que les mots ont leur importance ici. On pourra plutôt parler de villages quand les Germains seront arrivés, si j'ai bien compris.
Exactement. Nous avons l'image du village médiéval, qui est en fait le même village que celui que nous connaissons aujourd'hui, si ce n'est que le village d'aujourd'hui s'est développé. Mais l'origine véritablement du village, avec ses bâtiments centraux, avec son cimetière, avec son église, ces villages-là, ça donne l'image d'une vie en collectivité, telle qu'on la connaîtra bien au Moyen-Âge, telle qu'on la connaît bien dans l'esprit germanique, mais telle qu'on ne la connaît pas aussi bien dans le monde qui a précédé, donc ni à l'époque gallo-romaine, ni à l'époque gauloise. Les Gaulois avaient plutôt tendance à vivre à la campagne et à vivre sous une forme, je dirais, proche de l'agriculture, proche de la rentabilité. En fait, ils vivaient dans des fermes ou dans plusieurs fermes juxtaposées et ils avaient en tout et pour tout, en termes d'organisation sociale de village, leurs oppidas. Les villages en bord de rivière, les villages dans la plaine sont relativement rares. Et ce sera la même chose à l'époque romaine. On parle très peu souvent de l'existence de villages. On ne parle de villages que lorsqu'il y a une fonction spécialisée. Je pense par exemple que lorsque l'on a affaire à des sites de production métallurgique, on va avoir une vie en commun de groupes de population qui vont vivre dans un village de production de la métallurgie. Mais dans la plupart des autres cas, ce qu'on appellerait aujourd'hui un village, ce sont en fait des agglomérations d'habitats, de populations qui ont comme fonction principale de travailler soit dans le tertiaire, soit dans les deux, soit de travailler dans le secondaire, donc dans la production artisanale et également ayant une responsabilité dans la vie religieuse, dans la vie administrative. Mais les agglomérations n'ont pratiquement pas de fonction primaire, ne sont pas proches de la production de l'agriculture ou des productions du terroir.
Oui, cela dit, c'est souvent difficile à établir pour l'archéologue tout ça. Qu'est-ce qu'on faisait dans cet endroit? Qu'est-ce qu'on n'y faisait pas aussi? Quels étaient les tissus de relations avec son environnement? Bon, c'est pas si simple encore, hein.
Oui, c'est-à-dire qu'on connaît bien tout de même les exploitations agricoles de l'époque romaine, et en particulier dans nos régions. Donc c'est la richesse aussi qui nous vient de la terre et qui est fortement développée. Donc là, on n'a pas beaucoup de difficultés à concevoir que l'intérieur du pays, le monde rural, les fermes, les grandes exploitations, parfois de type industriel, sont des exploitations qui vont faire vivre le pays et qui vont rentabiliser l'économie. Mais ce type de production ne se fait pas dans les villes, ne se fait pas dans les agglomérations. Il y en a suffisamment que pour nourrir la ville et nourrir l'agglomération. Donc l'agglomération va se spécialiser essentiellement, je disais, dans le secondaire ou dans le tertiaire, va à l'occasion avoir, bien entendu, peut-être un tout petit peu de production. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de jardin, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un poulailler au fond du jardin pour vivre tous les jours. Mais ce n'est pas la production de type rural, dans le modèle romain, qui va concerner ce type de structure archéologique ou ce type de structure d'habitat.
Mais il y a quand même un modèle romain, au fond, au développement de ces agglomérations, souvent nouvelles.
Les agglomérations nouvelles sont bâties parce qu'on en a besoin le long du réseau routier. Il est tout de même assez étonnant de voir qu'il y a sur une route romaine nouvellement créée par Auguste, il y a à peu près tous les 30 kilomètres, un peu plus, un peu moins, un rythme donc qui est respecté de distance, il y a une agglomération romaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment que c'est une création romaine la plupart du temps, parce que ce ne sont pas les Gaulois qui avaient un réseau routier aussi développé, et ce ne sont pas les Gaulois non plus qui vivaient en agglomération, bien au contraire.
Donc, oui, je vous interromps, mais il y avait les mancios et les mutatios le long des routes. Hein. Les mancios c'était pour loger, et les mutatios c'était pour changer de chevaux, je suppose, ou quelque chose comme ça.
C'est ça, il y a le phénomène auberge qui est nécessaire pour passer la nuit. Il faut changer les chevaux pour ceux qui ne s'arrêtent pas, qui simplement vont aller plus loin. Et alors c'est la poste essentiellement, parce que vous avez la poste impériale qui fonctionne, la poste militaire qui fonctionne très rapidement. La poste privée, il faudra attendre le deuxième siècle. Mais la poste officielle qui envoie des courriers sur le Rhin en s'arrêtant là où il faut pour changer les chevaux, en s'arrêtant aussi pour passer la nuit, eh bien c'est une des premières fonctions de l'agglomération routière. Mais ce n'est pas la seule, puisque c'est un peu la fonction d'origine. C'est aussi la relation campagne et réseau routier. Bien sûr, les agglomérations vont avoir un très très grand rôle dans ce domaine. Et puis, comme je le disais en finale, jouer éventuellement un rôle dans l'administration et dans les productions artisanales.
Et je suppose que dans ces villes, on voit les maisons changer aussi en cours de route. En tout cas, la manière de les construire évolue au fil du temps.
C'est une question qui va se poser sur le moyen terme. Comme ces agglomérations, et d'ailleurs plus tard les fermes, sont tout de même des constructions romaines, c'est-à-dire d'initiative romaine, dans un premier temps, on ne va pas s'éloigner trop de l'utilisation de matériaux qui étaient utilisés donc avant, à l'époque gauloise. Ça veut dire le bois et l'argile, pour ne pas les citer. Et il va falloir attendre assez longtemps avant de voir les matériaux traditionnels romains, qui n'étaient inconnus des Gaulois, arriver sur le marché. Ça prend du temps. On considère que avant le milieu du 1er siècle, donc après notre ère, il n'y a pratiquement pas beaucoup de matériaux durs comme la tuile pour la couverture de la toiture ou la brique qui vont véritablement être utilisés dans nos régions du nord de la Gaule. Il faudra attendre la deuxième moitié du 1er siècle pour voir le recours de plus en plus systématique à la pierre de taille. Ça veut dire ouvrir des carrières, ça veut dire tailler les pierres comme on le fait ailleurs, dans d'autres régions de l'Empire. Ça veut dire produire des matériaux en terre cuite pour les murs et pour les toitures. Tout ça prend du temps. Mais en finale, c'est en marche. Je veux dire que l'initiative romaine utilise d'abord des matériaux locaux et des matériaux pratiquement d'origine autochtone, mais les plans des maisons ont déjà changé. Ce ne sont plus des maisons gauloises, ce sont déjà des maisons romaines, même s'ils sont en bois. Et puis on attendra encore un peu et on aura la même maison d'influence romaine ou gallo-romaine en matériaux durs.
Ce qui fait une des différences entre la maison gauloise et la maison de type romain, même si elles sont toujours faites en bois et torchis, par exemple, c'est quoi ? C'est la séparation à l'intérieur, par exemple ?
Oui, il y a un modèle qui est adopté, un modèle un peu passe-partout, qui est une maison tout en longueur, mais comme elle va venir dans un ensemble d'autres maisons, puisqu'ils sont dans une agglomération, ces maisons pourront être ou non mitoyennes. Ça, c'est une conception qu'on n'a pas à l'époque gauloise, évidemment. Ici, c'est déjà une agglomération de maisons regroupées et qui développe un plan tout en longueur, avec l'idée d'avoir au moins trois parties séparées. Et ça répond à un stéréotype, évidemment, que nous ne retrouverons pas nécessairement en Italie, mais que nous retrouverons dans la conception romaine au milieu des conquêtes ou au milieu des aménagements de territoires dans d'autres régions. Mais je pense que le monde gallo-romain, donc, c'est-à-dire les initiatives gauloises, ont dû un tout petit peu se mélanger pour produire en finale cette maison gallo-romaine, dont je vous disais qu'il y avait trois parties. La première partie, c'est celle par laquelle on entre dans la maison et qui est souvent réservée au commerce. On sait déjà qu'on va utiliser une partie de cette maison pour y créer, pourquoi pas, une taverne ou pour y créer n'importe quel autre commerce, donc une vente ou une production artisanale. La partie centrale de la maison, c'est la partie où l'on vit, dans laquelle on trouve souvent un foyer ou éventuellement une cave ou d'autres éléments. Et la troisième partie, c'est les pièces de résidence arrière de la maison qui vont surtout par la suite être transformées pour le chauffage, dans lesquels on se tiendra pour la partie d'hiver et qui donne aussi évidemment accès au jardin. Ce plan de maison n'existe pas à l'époque gauloise. C'est une initiative qu'on ne pourrait peut-être pas qualifier à 100% de romaine puisqu'il y a cette fusion des cultures à un moment. Ça va se développer sur le 1er siècle. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais en finale, à l'époque des Flaviens par exemple, donc dans la deuxième moitié du 1er siècle, on a couramment un plan original d'une maison qui peut être même mitoyenne parfois, par rapport à une autre, et qui répond à ce stéréotype.
Mmh. C'est vrai que bon, on imagine mal l'hypocauste dans les maisons gauloises. On y imagine mal les thermes aussi. Or, s'il y a bien quelque chose d'extrêmement répandu, apparemment, ce sont des thermes. Hein. On en trouve beaucoup.
Oui, l'avancée spectaculaire, évidemment, dans le monde romain, que tout le monde connaît bien, on dirait en premier lieu, c'est leur sens de l'organisation. En deuxième lieu, c'est l'apport spécifique qu'ils ont eu dans le domaine de la construction. Dans le domaine de la construction, ils ont amené avec eux des techniques. On a mis le temps de les développer, de les faire passer dans le monde gallo-romain.
De les maîtriser aussi.
De les maîtriser et surtout de les apprendre aux autochtones. Mais il y a alors des éléments phares, il y a des constructions phares au sein de cette nouvelle mode de construction qui apparaissent rapidement. Donc il y a d'abord, bien sûr, techniquement, le passage de la terre, du bois à la pierre, que l'on ne peut pas éviter quand on parle de thermes, puisque des pièces chauffées sont évidemment en pierre. Du point de vue incendie, le danger serait trop grand. Et vous avez donc un certain nombre de bâtiments comme ça, d'initiatives, dont évidemment les plus connues, c'est celles que vous avez citées comme initiatives, les thermes, le chauffage au sol de l'époque romaine, et d'autre part, les thermes. Et les thermes vont continuer pendant toute l'époque romaine véritablement de s'installer dans les agglomérations, dans les villes, voire même dans les villas, dans le monde rural, comme étant véritablement une nécessité, un confort obligatoire dans le monde romain. Ça, c'est quelque chose que les Gaulois ne connaissaient pas, bien entendu.
Je voudrais qu'on passe quand même aussi à... qu'on élargisse peut-être le champ, on aurait peut-être dû commencer par là. Il y a le découpage du territoire. C'est une chose difficile. Je dirais qu'il y a d'une part le découpage administratif, et puis une sorte de découpage plus géographique ou plus économique qui n'est pas beaucoup plus simple. Dès le début, quand cette Gaule fait partie de l'Empire romain, elle est découpée à la romaine, si je puis m'exprimer comme ça. Ça s'organise comment ?
Alors, Rome, qui a déjà l'habitude de pas mal de conquêtes en Méditerranée, avant de venir chez nous, a une réponse à ce genre de choses, une réponse rapide, immédiate, même si dans l'exécution, ça prendra éventuellement plusieurs générations. Et la réponse qu'ils vont offrir, c'est un modèle. Et le modèle, c'est de considérer qu'il faut organiser un découpage du territoire sur le plan administratif, avec comme arrière-pensée, d'abord, d'avoir une politique, d'avoir un responsable politique à la tête du découpage qui est proposé, d'avoir aussi, bien sûr, la collecte des fonds, puisque quelque part, il faut aussi penser au fisc. Et donc, cette organisation est vraiment la base indispensable. Ils ont l'intelligence de considérer que le meilleur découpage administratif, c'est de créer une entité administrative nouvelle, qui n'existait pas, mais qui, plus ou moins, épouse les limites de l'ancien territoire d'une peuplade ou d'une cité gauloise. Alors c'est très intelligent parce que vous voyez là, il n'y a pas de perte d'identité. Quelqu'un qui sont les Édouins ou quelque autre peuple qui serait les Arvernes ou les Nerviens pour rester chez nous, qui voit que leur cité épouse la nouvelle cité administrative qui sera dirigée par un politique romain, un gallo-romain, un romain qui est nommé par Rome éventuellement, voit que ses limites géographiques sont exactement les mêmes, ou à peu de choses près, que l'ancienne limite correspondante au territoire de la population libre des Nerviens, les gens vont s'en féliciter parce qu'ils vont considérer qu'on tient compte de leur identité d'origine. Et donc ça passe comme une lettre à la poste.
Littéralement, on ne change pas leur repère, quoi. On peut le dire comme ça.
Voilà, on va changer le repère administratif. Hein. Le modèle romain n'est pas le modèle gaulois.
Mais... Oui, mais quand ils se promènent, je veux dire qu'ils savent quand ils passent de l'un à l'autre comme ils le savaient par le passé, quoi.
Ils sont chez eux, et ils ont le sentiment d'appartenir. Et Rome a aussi, je dirais, l'intelligence souvent d'utiliser le même terme pour désigner, parce qu'il n'y a pas que les limites, il y a aussi l'appellation, pour désigner un territoire administratif nouveau, conquis. Rome va utiliser en fait un nom qui est l'ancien peuple gaulois d'origine.
Donc, oui, on va avoir quatre cités qui concernent notre territoire, hein, pour le dire comme ça, en définitive.
La cité des Nerviens, la cité des Trévires, la cité des Tongres, qui est une nouvelle administration, enfin qui est un nouveau découpage rendu obligatoire par la disparition des Aduatiques, des Tongres, et même peut-être un peu, mais je pense que dans l'histoire ils vont se poursuivre, les Condruses. Les Condruses font partie de cet ensemble. Et puis vous avez les Morins, vous avez les Ménapiens, enfin surtout les Ménapiens qui se trouvent dans nos territoires. Eh bien, on va leur donner des limites, mais on va continuer de les appeler. Donc, finalement, les Gaulois qui ont vécu au moment du passage de l'un à l'autre vont se rendre compte qu'ils vont vivre dans une nouvelle entité, mais on va conserver leur nom d'origine, ce qui est évidemment toujours intéressant.
Donc ça, c'est la civitas. Mais je veux dire qu'il ne faut pas entendre ce mot cité avec le sens qu'il aurait aujourd'hui. Ça ne se résume pas à une capitale, quoi. Hein. Je veux dire, c'est tout un territoire, une cité.
Oui, c'est un mot très ambigu et c'est parfois difficile d'expliquer ça même à mes élèves, que cité, c'est la traduction française de civitas, civitas étant peut-être un peu plus compréhensible finalement, à savoir que ça représente une zone géographique. Ce qui fait le lien avec le mot cité ou le mot ville, si vous voulez, c'est que on confond souvent le peuple, que ce soit le peuple des Nerviens ou le peuple des Tongres, avec la capitale. On considère que la ville principale est une référence parmi les autres, la plus importante, pour représenter, notamment à l'étranger, au Conseil des Gaules par exemple, de représenter l'ensemble du territoire administratif sous la forme de la ville principale. Et en ce sens, il y a un lien entre cité égale ville et ici, cité égale territoire.
Oui, mais enfin, c'est comme Rome et les Romains, au fond. On était Romains de Rome et on est Romains de l'Empire.
C'est ça, oui, tout à fait. Mais ici, on est obligé aussi de tenir compte des susceptibilités. Je suppose que ça a bien marché tout au long de l'histoire romaine, de la période de la conquête.
Où ça se complique peut-être encore davantage, c'est quand on passe, je dirais, à l'étage en dessous de ces civitates. Hein. On parle de pagus, on parle de vicus. Ça, c'est pas si simple non plus à strictement définir.
Oui, la recherche historique ne bénéficie pas dans ce domaine, malheureusement, de beaucoup d'informations. On est en manque, surtout dans nos régions. Hein. Pour avoir des informations, vous ne les trouverez pas dans l'histoire. Vous ne les trouverez pas pratiquement parce que les citations des historiens font l'impasse sur ce genre de sous-subdivision par rapport à l'entité principale. Alors, on doit se réfugier vers éventuellement des découvertes épigraphiques qui sont assez improbables. Trouver une borne dans laquelle on indiquerait la limite sur le terrain, ou la désignation d'un responsable qui dit dans son inscription qu'il est responsable d'un vicus ou d'un pagus. Ce sont des découvertes épigraphiques qui sont extrêmement rares et qui n'avons pas beaucoup à nous mettre sous la dent. Donc on en est souvent réduit à finalement à imaginer les situations. Ce qu'on peut dire en termes de modèle, c'est que dans les subdivisions dont on parle ici, le même régime politique est appliqué au pagus, qui est en fait traduit en français par le pays. Donc quelque part, c'est une zone ou une sous-zone de l'entité principale administrative dans laquelle habite une population qui fait partie du territoire, mais qui a sa spécificité aussi. Et puis le vicus, ça correspond à une agglomération, mais à une agglomération qui a en fait un petit pouvoir politique.
Un degré d'autonomie, dirons-nous, sur le plan politique, quoi.
Elle est administrée par elle-même pour les affaires de jour le jour. Bon, si vous voulez, vous avez un décurion, etc., vous avez un ordre, on appelle ça en latin un ordre, donc ça veut dire un conseil communal, pour être clair. Et là, vous avez un petit pouvoir. Mais les politiques qui sont là sont aussi les mêmes qui sont parfois retrouvées au sein de l'administration centrale.
Oui, mais enfin, on peut être bourgmestre et député ou sénateur. C'est pas impossible non plus. Aujourd'hui, ça devait l'être à cette époque aussi.
C'est-à-dire qu'on ne le sait pas formellement, puisqu'on n'a pas suffisamment de documents pour le dire, mais on a l'impression que ça pouvait fonctionner comme ça. Donc, quelqu'un qui aurait une responsabilité, en fait, à un endroit dans une agglomération, qui s'appelle Vicus, peut très très bien figurer au rang de ceux qui dirigent l'entité administrative principale. Un peu comme notre modèle d'aujourd'hui. Mais bon, on n'a pas toujours la réponse adéquate, puisqu'on a très peu de noms de responsables, et que on a toujours un petit doute sur la manière dont on pouvait se partager les tâches politiques d'une entité à l'autre. La cité, donc la civitas et sa ville principale, c'est tout de même le centre de l'administration. C'est tout de même eux qui décident de beaucoup de choses. Alors on ne sait pas très bien ce qu'ils pouvaient encore déléguer.
Mais quelle est la limite des prérogatives des uns et des autres, quoi, au fond.
Voilà, là on a quand même beaucoup de points qui ne sont pas connus.
Invité est l'archéologue Raymond Brûlé, directeur aux éditions Racine d'un ouvrage consacré aux Romains en Wallonie.
On a dit donc quatre cités qui concernent peu ou prou la Wallonie. Et je suppose qu'il y a des grandes différences entre l'aspect, je dirais, de ces quatre grandes cités. Si on part de la mer et qu'on arrive au bout de l'Ardenne, je suppose que, tout comme aujourd'hui au fond, les choses diffèrent de l'un à l'autre.
Oui, les différences viennent probablement davantage du monde indigène, du monde autochtone, que du monde romain, puisque ces différences, ce sont des différences qui vont suivre le mouvement, qui vont être celles que l'on connaissait déjà à l'époque de l'indépendance et celles qu'on ne pourra pas éliminer par la suite. Si vous prenez une ville romaine, que ce soit Bavay ou que ce soit Trèves, le plan d'une ville romaine avec un forum, c'est du romain, c'est pas du gaulois, c'est pas du gallo-romain, c'est tout de même une forte emprise de Rome. Si vous prenez ce qu'on appelle la municipalisation, c'est-à-dire l'organisation administrative générale au nom d'une cette entité qui est une cité, que ce soit chez les Nerviens, que ce soit chez les Tréviers, globalement, la manière d'administrer le territoire sera le même. Donc ce qui a une marque romaine ne change pas trop d'une région à une autre. Par contre, on trouvera des spécificités dans les domaines précisément où il y en avait déjà auparavant. On peut prendre quelques exemples. Bien sûr, les Morins et les Ménapiens vont avoir une forte économie liée à la mer, ce qu'ils n'auront pas en termes de production économique, les régions très agricoles du Condreau ou de SB, où là, à l'inverse, Rome va intelligemment favoriser le développement d'une agriculture intensive. Dans les plaines de Campine, où vous avez du sable, vous aurez peut-être plus dans le domaine rural une préoccupation d'élevage du bétail plutôt que d'agriculture. Donc on se partage un peu les choses comme c'était le cas avant, d'après les sensibilités ou les différences, les différenciations qu'il y avait déjà à l'époque gauloise. On peut rajouter alors encore une idée à ce point de vue, mais alors quelle est la marque de Rome dans tout ça? Donc j'ai dit que Rome était présent pour ce qui le concernait personnellement dans les problèmes d'administration. Là, il y avait peut-être une espèce de mise à niveau, la même pour tout le monde. Puis, il y a les spécificités qui viennent du monde autochtone et qui ne changent pas. Et puis, il y a tout de même Rome ou les Gallo-Romains qui vont intervenir à un moment ou à un autre. Eh bien, ils peuvent intervenir. Je prends la religion. On sait que les Nerviens, on sait que les Tréviers n'avaient pas nécessairement les mêmes habitudes en matière religieuse. Eh bien, Rome n'interviendra pas pour uniformiser. Il laissera des autonomies de croyance à l'un et à l'autre, en laissant des choix, en laissant notamment l'entité administrative se choisir ses dieux principaux. Enfin, c'est les dieux qui sont le plus honorés. Donc, il y aura des tas d'autonomies qui seront permises. Et ça, c'est l'intelligence de Rome, précisément, d'avoir permis, dans certains domaines, de pouvoir soi-même se choisir son avenir.
Ce qui est remarquable aussi, quand même, c'est qu'il y a des spécialités que vous notez au passage. La cité des Ménapiens est, entre autres, célèbre pour ses jambons. Hein, la cité des Tréviers, qui ne concerne que vraiment une fraction de territoire, est célèbre par sa sculpture, son école de sculpture, par exemple. C'est un peu inattendu, hein.
Ouais, c'est-à-dire que vous avez de la pierre dans la région de la Moselle, dans la région de d'Arlon, en Gaume. Vous avez évidemment beaucoup d'élevage chez les Ménapiens et les Morins, de même que les produits de la mer. Quand vous êtes en SB, évidemment que Rome, ça n'est pas passé inaperçu. C'est l'endroit où il faut développer l'agriculture intensive. Et dans l'entre-Sambre et Meuse, là où il y a des filons de fer, qu'est-ce que Rome peut faire? Favoriser le développement de l'artisanat, voire même de l'industrie, en tout cas aussi l'extraction d'abord du fer, du métal. Tout ça, finalement, concourt dans l'économie romaine vue de Rome, je ne dirais pas vue de Rome, mais vue d'un pouvoir politique supérieur, concourt pièce par pièce à finaliser une économie qui marche dans nos régions.
Il y a une chose aussi quand même qui est difficile, je suppose, en particulier peut-être pour l'archéologue, parce que ça ne s'inscrit pas forcément dans la pierre. Qui est propriétaire de quoi à un moment donné et où? Ça, c'est quand même compliqué, parce que d'une certaine manière, en prenant possession des territoires, je dirais que Rome en devient le maître et décide de l'attribuer, au fond, à qui il le souhaite. Hein. Alors, ça va à qui tout ça? Qu'est-ce qui dirige le pays? Des autochtones, des Romains, coopération des deux? Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'on peut suivre le fil de ça?
Je vois deux questions dans ce que vous me demandez. Je répondrai d'abord à la première sur la question de propriété, qui est assez différente de l'autre, qui est plus politique. Sur le domaine de la propriété, Rome a aussi un modèle qui est bien établi. Il doit prendre en compte plusieurs situations. La première situation qu'il doit prendre en compte après une conquête, c'est de récompenser ses anciens militaires, qu'on appelle des vétérans, ou de récompenser tout simplement des gens qui sont favorables à la politique du conquérant ou du général ou de l'empereur, de récompenser ces gens-là qui éventuellement sont des Italiens, sont des gens qui vivent ailleurs, à Rome ou donc dans d'autres villes d'Italie. Et pour les récompenser, que ce soit les vétérans, que ce soit des amis, il faut bien qu'ils créent un système qui leur permet de leur donner des terres. Et on ne les vend pas, les terres, on les donne à ce moment-là. En même temps, ça répond à un souci bien présent dans les territoires nouvellement conquis, c'est de disperser dans ce territoire des gens qui ont une expertise, des gens qui connaissent l'agriculture, qui connaissent comment gérer une ferme, peut-être de manière plus organisée que si l'on les confiait les yeux fermés à des Gaulois. Et surtout parce qu'on veut développer, évidemment, une agriculture ou un élevage intensif, et non pas parce que l'on veut simplement faire un profit au niveau local. Donc il y a une première action politique qui est le souci de donner des terres à ce qu'on appellera des colons, parce que ça devient des colons, et qui sont d'obédience à l'origine romaine, italienne ou militaire. Et puis, il y a aussi le souci de ne pas écarter la population locale. Mais on les a déjà dépossédés d'une partie des terres, puisque l'on a réservé une partie des terres que l'on donnera à des nouveaux colons. Et on va, avec les terres qui restent, on va parfois les couper en deux. On va dire, il y a une partie des terres qui doivent appartenir à des entités collectives. Je pense par exemple à la cité, à la Civitas, ou à d'autres entités collectives. Et on va donc pouvoir produire dans ces entités collectives, on va pouvoir produire soit en élevage, soit en blé par exemple, on va aboutir à un surplus. Et ce surplus va être en réalité utilisé par l'État. Et de ce fait-là, on va encourager en quelque sorte l'insertion de la population locale dans des systèmes économiques qui sont plus performants, puisqu'on attend un résultat. Et puis vous avez la troisième voie. Rome ne va pas, heureusement, oublier l'existence d'une classe sociale moins privilégiée que l'on pourrait appeler celle de la petite propriété, la petite ou la moyenne propriété. On va voir en Gaule se développer à la fois à côté de grandes exploitations agricoles, on va avoir encore ce qu'on appelle des petites fermes intercalaires. Donc, plic-ploc, vous aurez encore, heureusement, des fermiers, qui sont évidemment à l'origine des Gaulois, à qui on permettra de continuer au niveau unifamilial, au niveau de leur famille, des productions, qui ne seront évidemment pas les mêmes et qui n'auront pas la même intensité que dans les grandes exploitations agricoles qui peuvent même parfois utiliser des esclaves. Donc le profit n'est pas le même. Donc vous voyez un peu, en termes de propriété, on pourrait peut-être parler de trois niveaux. Et Rome a dû jouer avec tout ça pour essayer, non pas d'harmoniser, mais que chacun y trouve sa place. Et que ça ne génère pas des révoltes ou que ça ne génère pas des difficultés. Et je crois que de cette façon-là, le pouvoir romain est arrivé à faire cultiver des terres qui ne l'étaient pas avant, puisque on essaie de cultiver le plus possible. Donc c'est en soi, je dirais, une volonté économique très très forte de déboucher sur des résultats optimum en matière d'organisation rurale.
Et il y a par exemple le finage aussi, c'est encore une autre notion, ça. Je veux dire, c'est une manière de rassembler une communauté, au fond, et de créer une sorte d'intérêt commun, quoi.
C'est-à-dire que ici, je vous ai parlé pratiquement de la création de trois classes sociales. Une qui est privilégiée parce que ce sont des vétérans à qui on va donner des terres. Une autre qui est une organisation non pas de l'État, mais qui est proche de l'État et qui vise au fond à développer de très très grandes fermes dont la responsabilité sera donnée à quelqu'un qui est du giron. Et puis, on gardera la petite propriété intercalaire ou la moyenne propriété. Ça, il s'agit d'initiatives donc économiques, de l'organisation de fermes. Ce dont nous n'avons pas encore parlé quand vous évoquez le finage, c'est évidemment le découpage géographique du paysage, c'est-à-dire les terres, comment les choses se présentent. Alors là, évidemment, Rome a un grand secret que tout le monde connaît, c'est que dès qu'il arrive dans un pays et qu'il a conquis, il va aussi s'approprier le paysage. En quelque sorte, il va imposer un modèle de découpe du territoire que tout le monde connaît bien, qui s'appelle la centuriation. Ce qui ne veut pas dire qu'il a appliqué strictement le même modèle partout, surtout dans nos régions très éloignées. Mais la centuriation, c'est quoi? C'est un découpage d'un terrain en petits lots, enfin en lots petits et moyens, qui sont même 710 mètres de côté, donc c'est pas mal. Et ça va s'insérer dans un grand mouvement de redécoupage du paysage, de redistribution des terres aussi. C'est d'abord le paysage, si vous voulez, avec des bornes. Hein,
un vrai cadastre, oui.
Et c'est aussi la base pour toucher l'impôt. Donc, c'est très important de procéder comme ça. Alors, le cadastre lui-même, ou la forme cadastrale prise par la centuriation, n'aura pas toujours une influence directe sur la manière dont les fermes vont venir s'implanter. C'est-à-dire qu'on va d'abord découper le paysage et puis on va implanter les fermes. Et les nouvelles fermes qui vont devoir vivre en accord avec un espace de type bien délimité sur lequel ils auront l'obédience et sur lequel ils vont devoir évidemment travailler. Le lien entre les deux n'est pas très facile à faire parce que, si vous voulez, le découpage du paysage est un peu théorique. C'est Rome qui arrive avec ses géomètres, comme nous avons des géomètres pour délimiter des espaces aussi. Mais quand Rome arrive avec toutes ces populations de fermiers à placer ou accepte des fermiers locaux, le découpage devient plus difficile. Et surtout la question de propriété que vous avez évoquée. Hein. Qui est propriétaire de quoi dans ces domaines? Et là, évidemment, nous sommes toujours tributaires de l'épigraphie pour lesquelles nous avons très très peu d'informations.
Alors il faudrait quand même aussi consacrer quelques minutes à ce phénomène qui est celui des villas romaines. Peut-être qu'on a pensé qu'il suffisait que les Romains arrivent quelque part et qu'ils construisent ces exploitations magnifiques, somptueuses quelquefois. C'est peut-être pas comme ça exactement que les choses se sont passées. Peut-être que ça a existé comme ça, mais il y a une sorte de graduation aussi dans l'installation de ces grandes propriétés. Parce que qu'est-ce que c'est au fond une villa ?
Alors, on ne parlera pas d'une villa romaine de la même façon dans l'ensemble de l'Empire romain. On peut bien voir qu'il y a des conceptions qui sont très très différentes. Il suffit pour ça, pour se rendre compte de l'importance que Rome a eue par rapport à ce phénomène des villas, notamment gallo-romaines, de comparer ce qu'est une villa romaine en Italie et ce qu'est une villa gallo-romaine en Gaule. C'est deux choses complètement différentes. En Italie, la villa dite romaine, ça peut être une villa de plaisance. On en a au bord de la Méditerranée.
Mais
enfin,
ah,
oui, on n'en parlera pas parce que ce ne sont pas des villas romaines telles qu'on les conçoit chez nous. C'est de la villégiature, mais il y en a. On sait bien que beaucoup d'écrivains, beaucoup de politiques se sont fait édifier ce qu'on appelle des villas au bord de mer. Donc c'est un phénomène dont nous n'avons évidemment pas chez nous. Sauf peut-être en Moselle, par exemple, au bord de la Moselle, à l'époque romaine tardive, il y a des villas de prestige qui sont, donc je veux dire uniquement de prestige, qui ne sont pas des lieux de production qui sont construits. Mais en dehors de ça, on conçoit la villa romaine tout à fait autrement. Alors, cette villa romaine en Italie, c'est des villas qui sont au nom d'une petite propriété, c'est une famille. Où on produit du vin, d'ailleurs, on produit aussi de l'huile, on produit d'autres choses, mais c'est à l'échelle humaine. La villa romaine d'Italie est complètement à l'échelle humaine, c'est une famille ou deux familles, et c'est des esclaves aussi qui font tourner la villa, et ça reste des productions qui sont relativement mesurées. Comme si, finalement, la propriété individuelle en Italie avait un fonds de commerce très important sur le plan politique et sur le plan économique qui a vécu très longtemps. Et comme si le territoire de l'Italie, d'une région à l'autre, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, la Toscane n'est pas les Pouilles, bien sûr, mais on voit des fermes qui vont s'organiser sous le modèle de la petite villa romaine dans toute l'Italie. Chez nous, c'est comme si c'était le contraire. On aura des petites villas romaines qui correspondent à des propriétés, à des enclaves de propriétés privées, d'une ou deux familles, donc une gestion d'une ferme, à titre individuel, presque unifamiliale. Mais à côté de ça, ce que nous considérons comme la ferme gallo-romaine, comme la villa gallo-romaine, c'est la toute grande ferme, la toute grande villa. Et c'est un modèle qui n'existe pas en Italie, c'est un modèle qui est exporté et qui est donc créé en symbiose avec le monde gaulois. Et le but est clair, ça devient de grosses exploitations, c'est presque des usines. Alors, on exagère un peu parce qu'on n'est pas dans l'époque industrielle, mais quelque part, ça y ressemble. C'est-à-dire que ce sont des productions gigantesques. Prenez le modèle qui a été longtemps cité, puisqu'il a été découvert au XIXe siècle, et puis qu'on en a retrouvé ailleurs en Gaule, en Picardie et en Suisse notamment, c'est la Villa Dante, cette grande villa qui fait 700 mètres de longueur. Presque un kilomètre, dans lesquels il y a des bâtiments d'exploitation, il y a une riche demeure. Ça, c'est le modèle dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, et donc ailleurs aussi en Gaule. C'est le modèle même de la grosse exploitation dans laquelle pouvaient travailler des centaines d'ouvriers pour une production qui, forcément, ouvrier ou éventuellement esclave, mais bon, c'est le type même de production intensive qui était bien nécessaire dans les régions, par exemple, très fortes au plan agricole. On n'est pas loin des frontières, il faut nourrir l'armée, il faut aussi nourrir les villes. Donc on devait avoir des productions intensives en pleine époque romaine, non seulement pour nourrir la population, mais aussi éventuellement pour faire une exportation et pour dégager un surplus. Il y a des bateaux quand même qui quittent nos régions aussi avec du blé à un certain moment. Donc on peut bien penser que le modèle par excellence de la villa romaine chez nous, c'est surtout le modèle de la grosse exploitation auquel on rajoute alors des petites exploitations sur le plan unifamilial. Alors, et comment vivaient les deux ? Difficile à imaginer, puisque l'un, c'est la production pour la famille, et ils devaient payer des taxes là-dessus, tandis que la grosse exploitation, c'était tout de même pour dégager un profit sur l'ensemble de la région, sur l'ensemble du territoire. Donc c'est un modèle économique qui a fait ses preuves.
Ceci dit, quand je regarde les résultats de vos fouilles, hein, d'abord vous décrivez plusieurs types de ces villas, dites à cour unique, hein, du côté de Amois par exemple, donc cette grande villa à plan axial de Dante dont vous parliez, les cours multiples, on en trouve une à Mété par exemple, à Péristyl qui est rare, à Rognier par exemple, on trouve des greniers, des écuries, des étables, des porcheries, des garages, des ateliers dans ces grosses villas. Et où sont les gens ? Hein, vous parliez de centaines d'ouvriers, peut-être esclaves. Où sont-ils ?
Alors, il y a en tout cas deux hypothèses qui ne sont certainement pas mauvaises. En premier lieu, il y a des personnes qui sont engagées dans le domaine et qui vivent sur le domaine. Le domaine qui est couvert par cette grande villa romaine est tout de même très vaste en nombre d'hectares en superficie. Donc, le domaine peut absorber évidemment l'habitat de ces personnes. À l'intérieur même de la ferme, on a retrouvé quand même pas mal de fois des petites maisons qui devraient normalement pouvoir abriter une partie de la population. Et puis on pense aussi qu'il y avait une grosse part de la main-d'œuvre dans ces grandes exploitations qui était saisonnière. Alors on doit à ce moment-là les recruter à l'extérieur.
Oui, mais alors ça ne fait que déplacer le problème. Où étaient-ils quand ils n'étaient pas à la ferme alors ?
On pense dans les agglomérations. Dans les agglomérations qui produisent de l'artisanat pendant l'année et qui, à un moment ou à un autre, viennent en renfort. Ce sont les ouvriers agricoles qui vivent dans des petites agglomérations et qui viennent en renfort quand c'est nécessaire, qui sont payés pour ça ou qui sont recrutés pour ça, dans le monde rural au moment de l'exploitation de la production maximum. Je pense que c'est tout à fait possible. Alors vous avez le phénomène de l'esclave qui joue un rôle aussi en Gaule, mais sur lequel on est prudent parce que vous imaginez sans texte, affirmer que toutes les villas romaines ont fonctionné avec des esclaves, si on ne peut pas le prouver, on sera de très mauvais historiens. C'est une question fondamentale. Alors, il y en a eu, certainement, mais les témoignages historiques sont fort ténus dans ce domaine.
«
Nous retrouverons une dernière fois Raymond Brulé la semaine prochaine. Je vous rappelle qu'il est archéologue, professeur à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve et qu'il a dirigé « Les Romains en Wallonie », un ouvrage paru aux éditions Racine qui étudie à partir des traces matérielles l'histoire de la présence romaine dans notre région. Cette émission a été réalisée par Christine Bordet et Pierre de Giovanni. Merci à vous de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.
Retrouvez Mémo le samedi de 17h15 à 18h.
La première.